Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma ? Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réu d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
Bon, on va Réu.
Bienvenue à cette nouvelle Réu, Déborah et Mathieu.
Salut.
Si je fais appel à vous aujourd'hui, c'est parce que bon, on va pas se mentir, on aime les grosses bébêtes, et en particulier les bébêtes qui viennent du Japon. Et ça tombe bien, puisque ce cher Godzilla a quand même un sacré début d'année 2024, entre le succès massif et assez inattendu de Godzilla Minus One au Japon, et donc la sortie de Godzilla X ou Cross Kong, mes couilles là, du côté américain. Alors, j'aurais aimé qu'on se concentre sur les itérations japonaises de Big J, mais son dernier crossover du côté du blockbusterien amène forcément à ce qu'on réfléchisse sur ce qu'est le fameux Monsterverse, cette saga de monstres sauce Marvel lancée en 2014 avec le reboot de Godzilla par Gareth Edwards. Du coup, je vous propose qu'on revienne évidemment sur chaque film de la franchise pour mieux interroger ses réussites et ses échecs, qui sont d'ailleurs peut-être plus nombreux que les réussites. Mais avant ça, dans un sens peut-être plus global pour qu'on réfléchisse à une approche autour du Monsterverse, déjà, qu'est-ce que vous en pensez en tant que franchise, autant en ce qui concerne sa réception critique ou ce que vous, vous aimez ou pas des films, et puis de son état et de sa place dans le giron hollywoodien. Mathieu ?
C'est un peu difficile de tenir cette position à une époque où la franchise est quand même pas mal détestée par beaucoup de gens, puisque les films sont devenus hyper cons. Mais moi, j'aime bien, voilà. C'est vrai que j'ai une appétence globalement, en général, pour le Kaiju Ega et à la fois ce qui charrie et aussi son côté un peu bouffon, on va dire, ce côté hyper pop. Et quelque chose que j'aime un peu dans cette franchise, indépendamment de la qualité des films sur lesquels on va revenir, c'est qu'ils y sont allés à fond, quoi. Enfin, je veux dire, ils ont balancé King Ghidorah dans le bordel, Vlatipa, que t'as un lézard géant qui se bat contre des dragons géants à trois têtes, y a des mythes qui leur éclatent la tronche par derrière, dans le dernier, il y a un singe qui se bat avec une colonne vertébrale. Enfin, on peut dire ce qu'on veut de la qualité globale, mais le fait est que les mecs ils mettent les pieds dans le plat, et ça me plaît.
Toi, Déborah ?
J'ai pas un avis si éloigné de celui de Mathieu. Bon, j'ai pas vu le dernier Godzilla, donc peut-être que ça m'influence énormément et que je changerai totalement d'avis après. Mais bon, pour l'instant, j'avoue que sur tous les films, à part le premier Godzilla, j'étais assez peu réceptive. Et après les avoir revus plusieurs fois, en fait, j'aime beaucoup. J'avoue que je laisse de côté.
C'est du syndrome de Stockholm, c'est de la question d'habitude.
Non, mais j'étais trop à me focus sur les humains et à me dire, oh là là, mais ils servent à rien, il y a trop de problèmes sur les arcs narratifs et tout. Et juste les moments de baston et de destruction et tout. Non, franchement, c'est quand même bien branlé. C'est bien plus que sympathique. Franchement, c'est très très cool. Et même Skull Island, quand je l'avais vu, j'étais en mode, mais c'est quoi cette énorme merde et tout. Et je l'ai revu justement pour préparer cette réu. Et même sans aller dans la comparaison avec les derniers et tout, en fait, je l'ai grave revu à la hausse. Et au final, c'est des blockbusters quand même qui sont assez généreux. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a un petit peu du mal à retrouver ce même esprit bien fait, généreux, avec un truc très lyrique, un peu cheap, mais qui fonctionne bien.
Ouais, c'est ça, c'est qu'à l'ère des blockbusters un peu catalogue, on va dire, où on enchaîne les IP, ça fait un peu du bien, même si c'est mal fait, de voir un film dont la promesse est on va te balancer des monstres les uns sur les autres pendant 2 heures et ils s'y tiennent, quoi.
Surtout que c'est quand même l'un des éléments sur lequel je pense que c'est important de revenir, c'est que Sur le papier, le Monsterverse peut sembler très opportuniste dans son approche, qui était celle de voir le succès de Marvel et ce que Warner a aussi fait avec DC dans la foulée, et de se dire il faut qu'on prenne le train en marche, ce que tout le monde a plus ou moins essayé de faire. Et quand tu regardes, on a bien vu que là Marvel se casse déjà la gueule et DC est mort, et tous ceux qui ont essayé de faire la même chose en se disant on annonce justement l'assemblage d'IP avant même que t'aies vu le premier film, exemple parfait, la momie avec son fameux Dark Universe dont on ne verra jamais la couleur.
Rest in peace.
Là je trouve quand même que finalement Monsterverse a eu l'équilibre un peu parfait de lancer Godzilla et de se dire on voit si ça prend, de faire Skull Island en se disant bon si ça marche on sait qu'on peut faire dans la foulée un crossover, et ça a pris, donc ils ont pu se permettre d'y aller. Et même si la réception a plus ou moins été moyenne, ils sont toujours plutôt bien tenus d'un point de vue box-office pour que les suites se justifient. Et là, Cross Kong marche plutôt bien, donc c'est la preuve qu'ils arrivent quand même à se tenir, alors qu'on parle à l'heure actuelle de la fin des franchises à Hollywood, et mine de rien, le truc tient encore plutôt bien la route d'un point de vue commercial.
Encore une fois, j'ai pas vu le dernier, commercial, oui, puis je pense aussi, enfin je sais pas vous, moi personnellement, c'est ce qui me dérangeait un petit peu, c'était comme tu disais en fait, que tu voyais que c'était un univers en construction, où t'avais les génériques avec plein de références, les scènes post-génériques, d'un coup on t'annonce qu'il y aura la série qui sera en fait un préquel de machin, donc je pense que sur le coup tout ça, ça m'a un peu saoulé parce que Marvel, DC, Transformers, tout ce que tu veux, toutes les franchises qui fonctionnent exactement sur le même schéma. Mais en prenant du recul et en regardant tout ça de loin et en n'ayant pas vu le dernier film, ni Monarch, ni la série animée Netflix, franchement ça va, ça se tient. T'enlèves la moitié et franchement ça va.
Non, et puis je pense d'ailleurs que c'est un peu le truc, c'est que par rapport à Marvel où maintenant t'es vraiment obligé de faire tes devoirs, en soi tu peux lancer Godzilla versus Kong sans avoir vu les autres, quand bien même il y a Millie Bobby Brown du précédent Godzilla, mais tu t'en fous en fait, comme justement les humains servent à rien.
Oui,
plus.
Puis t'as toujours les deux scènes de dialogue pour te faire de l'exposition, de allez je te remets un petit peu dans le contexte, ouais, elle sait qui, l'autre, voilà, en fait ma femme elle est morte, du coup les cailloux c'est des méchants et allez hop c'est bon on a compris.
Oui, c'est ça, globalement.
Par contre Déborah, t'as dit une phrase que personne n'a jamais dit à propos du Monsterverse, c'est ça se tient. Je veux dire,
j'ai dit t'enlèves la moitié et ça oui, se tient. Ouais.
Ah, c'est l'exact opposé de cette phrase que j'ai eu en tête pendant tout Godzilla X Kong.
Ah, voilà, mais je l'ai pas vu. Peut-être que je vais le voir et je vais me dire oh putain, j'ai prononcé cette phrase. Heureusement, personne l'entendra jamais.
Mais c'est peut-être intéressant, justement, avant de plonger pleinement dans Godzilla premier du nom, de revenir un peu sur les origines du Monsterverse qu'on doit à ce grand homme de cinéma qui est Thomas Tull, donc producteur et créateur surtout de Legendary. Et Legendary, en fait, on l'oublie souvent, mais c'est quand même un studio un peu à part à Hollywood, puisque donc ça a émergé au tout début des années 2000. Alors Thomas Tull, en plus, lui, il vient pas vraiment du cinéma à la base, il est un peu entrepreneur. Enfin voilà, exemple un peu chelou, mais et le mec s'est fait un nom dans le ciné petit à petit, de manière un peu, c'est vraiment pour le coup l'exemple du mec qui s'est fait tout seul, alors très fantasmé par les Américains, mais lui vient pas d'une grande famille de producteurs américains. Et puis en fait, ce qu'il a vraiment démarqué au début des années 2000, c'est qu'il a fait une grande levée de fonds à quasiment 600 millions de dollars au début des années 2000, et Warner, qui était dans la panade à ce moment-là, s'est dit « parfait, on galère à faire des films et notre box-office peine à fonctionner ». C'est l'occasion parfaite de coproduire des films avec eux. Et du coup, ils font ça dans le début des années 2000. Alors, ça donne au départ des trucs qui marchent pas du tout, comme La jeune fille de l'eau. Ou encore, qui était plus parlant sur le papier, mais Superman Returns, qui est quand même un assez gros bide. Et puis, mais en même temps, Thomas Tull, il s'acharne et ça donne des succès. Alors, celui modéré de Batman Begins, mais qui va suivre dans la foulée avec The Dark Knight, qui sera évidemment un carton monumental. Et surtout, alors que personne n'y croit, c'est lui qui mise sur 300 de Zack Snyder. Alors on peut le remercier ou le maudire aujourd'hui pour l'aura de Zack Snyder peut-être à Hollywood, mais en tout cas, il mise sur 300 et sur plus tard Watchmen, et ça donne le carton qu'on connaît de Zack Snyder sur les adaptations de comics. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Thomas Tull, il est vraiment considéré par beaucoup à Hollywood comme un mec qui pourrait être réalisateur. C'est-à-dire que quand tu le vois au Comic-Con pour présenter des films, il est là avec les réals et tout le monde l'adore, à tel point d'ailleurs que certains prods de Warner auraient exprès fait en sorte qu'il s'engueule avec les réalisateurs, en fait. Enfin, tu vois, de faire passer des rumeurs et des trucs comme ça, comme quoi il était pas sympa de travailler avec lui, parce que les mecs avaient en fait les boules qui s'entendent aussi bien avec les réals, avec qui ils bossaient, notamment Nolan et Guillermo del Toro, avec qui il fait quand même Pacific Rim, donc volonté de renouveler quand même le Kaiju Ega déjà avant de lancer le Monsterverse. Et en parallèle de ça, du coup, en 2009, il fait un deal avec la Toho pour reprendre les droits donc de Godzilla, alors que Lato est absolument encore traumatisé du Godzilla de Roland Emmerich. Et donc, il arrive quand même à conclure le truc en 2010. Et surtout, à ce moment-là, personne ne se fait trop à l'idée, mais quand il conclut les droits du Monsterverse, enfin de Godzilla, c'est aussi en se disant, bah, derrière, il y a l'envie potentielle de ramener Mothra, King Ghidorah et tout le reste de la clique dans la foulée, ce qu'Hollywood n'envisage même pas vraiment à ce moment-là. Mais du coup, en 2014, se lance Godzilla. D'autant que, en parallèle de ça, Legendary étant un studio indépendant, Tull fait en sorte de gagner cette indépendance encore plus en reprenant des parts de la société et être l'actionnaire principal. Et Warner, qui voit ça d'un mauvais œil, brise leur contrat, rompt le contrat en 2013. Et pourtant, le Monsterverse reste chez Warner. Et même si Tull, d'ailleurs, finit par se faire virer en tant que PDG en 2017 de Legendary, il reste prod du Monsterverse encore aujourd'hui, en fait. Donc il tenait à ce bébé-là. Et il a réussi à lui donner une force assez balèze. Et je pense que, mine de rien, c'est pas à sous-estimer dans la force de frappe qu'a pris le Monsterverse avec le temps.
Ouais, pour revenir du coup au premier Godzilla de 2014, qui a donc lancé cet univers, il faut revenir bien avant encore, avant même Legendary, presque ensuite à la vidéo que j'avais faite sur ce film et le film de Roland Emmerich. Oui, donc en fait, le film de Roland Emmerich avait été lancé en partie parce que Lato, à ce moment-là, avait plus ou moins besoin d'étoffer un peu la marque Godzilla, entre autres raisons, bien sûr. Bon, et le film n'a pas fait beaucoup de bien à la marque Godzilla. Je parle pas seulement de la qualité du film, voilà, beaucoup de gens le défendent,
oui,
pas de problème.
Des gens qui ont des problèmes aux yeux, je pense.
Ah, ouais. On peut lui reconnaître des effets spéciaux plutôt honnêtes, quand même. Il y a des maquettes plutôt cool
non,
et
mais
tout.
Mais Godzilla, oh, il pond des œufs.
Non, mais d'accord, mais... Écoute, c'est pas moi que tu dois convaincre, là, d'accord? Je me suis déjà fait suffisamment insulter en toute cette vidéo pour pas que vous en rajoutiez une couche, s'il vous plaît.
Ne renie pas tes opinions.
Bref, le fait est que ce film-là n'ayant pas beaucoup marché, voilà, c'est ça que je voulais dire, les films de l'ère Millennium, comme on dit, au début, ça a bien marché, mais vers la fin, ça s'est un peu pété la gueule, notamment avec Godzilla Final Wars, qui se moque d'ailleurs allègrement du film de Emmerich, et qui a été produit pour, à l'époque, une somme vraiment non négligeable pour les Japonais. Et qui s'est un peu viandé, quoi, enfin qui a pas été du tout à la hauteur. Donc la licence Godzilla est vite tombée en désuétude, mais disons qu'elle était en pause pendant un temps. Et c'est là qu'arrive un réalisateur qui s'appelle Yoshimitsu Banno, et qui avait déjà bossé sur la franchise, puis qui est le réalisateur d'un des meilleurs opus de la saga, à mon humble avis, qui est Godzilla vs. Edora, qui date un peu, hein, c'est dans l'ère Showa, et le côté un peu funky. 70s avec le monstre qui représente la pollution. Voilà. Godzilla va poutrer en volant notamment avec son souffle. Si je ne m'abuse, je crois que c'est dans celui-là. Voilà.
Oui, tu m'avais envoyé le
moment.
Même.
Voilà. Et donc lui, il a bossé avec Lato très longtemps et il a fondé sa propre boîte en 2000, une boîte qui s'appelle Advanced Audiovisual Productions et qui se concentre beaucoup sur les grands formats, donc l'IMAX, etc. Il a notamment créé un truc qui s'appelle le Japax, je crois, qui est l'équivalent japonais de l'IMAX et qu'il utilise dans les parcs d'attractions, les trucs comme ça, tu vois. Voilà.
Je ne connaissais pas l'existence de cette chose, je suis ravi de l'apprendre.
C'est pas très connu. Hein. Et lui, eh ben, il décide de faire un Godzilla, notamment avec un prod américain avec qui il s'entend professionnellement, on va dire, qui s'appelle Roger Holden. Et donc, il s'embarque dans l'idée de faire un Godzilla, mais il veut faire un film d'environ 40 minutes. Okay. Et un film qui s'appellerait du coup Godzilla 3D to the Max.
Super.
Qui aurait pu sortir en 2008, de fait. Et donc là, à ce moment-là, voilà, Final Wars c'est fini depuis plusieurs années, et la marque est pas au top de sa forme. Du coup, Lato lui demande de faire ses preuves et finalement lui impose plus ou moins le même type de contrat qu'il y avait avec Emmerich, dans le sens de t'as le droit de faire le film, de le distribuer à l'international, mais Lato garde les droits au Japon.
Ok.
Et donc, ce qui est intéressant avec ce film, c'est que déjà, c'est très en rapport avec les Américains, là où ça avait été un peu compliqué avec les suites de Godzilla pour des raisons évidentes. Parce qu'au-delà de ce producteur, il y en a un autre qui va arriver sur le projet ensuite qui s'appelait Brian Rogers, qui a notamment bossé sur l'attraction de 3D de Terminator 2. Voilà.
Okay.
Parce qu'il voulait faire en 3D en 2007, c'est quand même assez audacieux, quoi.
Ouais,
je veux dire,
c'était encore
3D IMAX, ouais. c'était la volonté. Il y avait Peter Anderson à la photo, qui est un directeur de photo américain qui a aussi bossé sur des effets visuels. Et donc, bon, l'histoire est un peu compliquée. Il y a plein d'histoires. Il y a une interview super intéressante de Roger Holden qui a vraiment tenu le projet à bout de bois pendant toutes ces années, bout de bras, pardon, pendant toutes les années qui en parle. On sait à peu près de quoi ça va parler et ça ressemblait pas mal à Edora. C'est presque pas une sorte de remake, mais un truc un peu plus contemporain sur la pollution, etc.
Okay.
Et ça avait l'air de poutrer sévère. Hein. Tu vois un peu le résumé sur Toho Kingdom. Vraiment, il y a gros monstre qui se met la tronche sur gros monstre à fond, quoi. Ils y vont. Et pour faire ce projet. Alors, c'est passé plein de trucs, mais grosso modo, ils se retrouvent à faire une sorte de levée de fonds, alors qu'ils réfléchissent à faire non plus un film de 40 minutes, mais un vrai long film.
Long métrage, oui.
Et parmi la levée de fonds, alors qu'il y a un gros investisseur qui se barre, un autre arrive, et cet investisseur, c'est Legendary, justement.
D'accord. Okay.
Qui se dit, hey, ça pourrait être pas mal. Donc là, il y a eu probablement plein de discussions, et vu que le projet avait déjà une petite partie américaine, probablement qu'ils ont pu un peu s'arranger avec ça. D'autant que du coup, les deux prods américains et Yoshimitsu Ebano sont restés producteurs exécutifs sur ce nouveau film, ce qui a dû leur apporter beaucoup plus que ce que leur aurait peut-être apporté le projet original. Et donc, Legendary finit par convaincre Bano d'aller revoir la Toho et de lui demander non plus de pouvoir utiliser la saga pour un film, quoi, mais de vraiment avoir les droits pour un long métrage américain.
Okay.
Qui sera donc finalement Godzilla 2014. Alors, il n'y a absolument plus rien des idées originales du film dans la version de Edwards, bien évidemment. Mais c'est de là que ça vient, voilà. Et donc ensuite, le projet, on peut en parler. Hein. Je pense que le scénar a été compliqué, apparemment. Voilà, il y a eu de multiples relectures. Il y a eu pas mal de script doctors, notamment David S. Goyer. Il n'est pas crédité, mais qui a été script doctor sur ce film. Ensuite, il y a eu Frank Darabont, qui a fait des réécritures.
Oui, ça, je savais, ça, pour le coup.
Voilà. J'ai même entendu parler, alors je dis aurait dans la vidéo parce que j'ai pas réussi à trouver une source hyper fiable, mais Rian Johnson aurait, paraît-il, bossé sur le script également. Bref,
ouais,
ils ont un peu galéré, je pense. Et à la réal, ils ont engagé, on va en parler puisque c'est important et
c'est important, hein.
Selon nous, ce qui fait que le film est extrêmement réussi, un certain Gareth Edwards qui à l'époque sortait d'un petit film pas cher du tout appelé Monsters.
Monsters, donc petit film indé fait, alors qui en plus à l'époque était vraiment un mythe de festival puisqu'il était allé à Sundance où le film avait coûté alors. Les légendes veulent que ça ait coûté en dessous de 100 000 dollars, alors en réalité ça serait pas le cas quand même.
C'est,
mais
en dessous de 500 000, il y avait eu des légendes à l'époque qui disaient qu'il a été fait pour 15 000 balles, et en fait c'est juste ça. Un article de Best Buy qui estimait le coût du matos et que tout le monde a repris, alors qu'en fait ils sont allés sur place. Donc évidemment ça leur a coûté plus cher que ça.
Ça a coûté
mais ça reste, même à moins de 500 000 balles, ça reste
c'est
impressionnant.
Ça. Et c'est extrêmement impressionnant puisque le film est un film en soi déjà de kaiju, puisqu'on parle d'une no-go zone au cœur de l'Amazonie. Dans laquelle on finit par rencontrer des monstres qui d'ailleurs s'accouplent dans une magnifique scène et où les effets visuels étaient quasi intégralement faits par Edwards lui-même puisqu'il est à la base du milieu des effets visuels, ce qui explique sans doute pourquoi d'ailleurs Godzilla est au moment de sa sortie un film qui a sacrément de la gueule parce que le mec sait ce qu'il veut et quand bien même c'est seulement son deuxième long métrage après un petit film indé, quand il se retrouve à la barre d'un truc qui coûte quand même la bagatelle de 160 millions de dollars à produire. Et contrairement à plein de réals qui se retrouvent chez Marvel ou autres alors qu'ils ont fait que du petit film indé, il sait ce qu'il veut et ça donne, je pense, au film ce qui justifie sa réussite quand même.
Bah oui, surtout qu'on est sur le même modèle que Monsters avec cette apparition très tardive, le fait vraiment de nous plonger dans une atmosphère, de rester à l'échelle humaine et d'un coup de se retrouver face à des créatures dont la caméra arrive même pas à prendre en compte la démesure en fait. Et je trouvais que c'était super bien réutilisé dans Godzilla, justement, pouvoir jouer là-dessus sur la tension et puis sur cette première non-apparition de Godzilla. En fait, sa première apparition, c'est une catastrophe naturelle avec ce séisme-là dans quelle ville déjà ?
Mais en fait, je crois que c'est le Muto qui provoque ça. Hein. C'est pas Godzilla, du coup.
Tu parles de la centrale nucléaire ?
La centrale nucléaire,
non.
C'est le Muto qui provoque ça.
Non, je parlais pas de la centrale nucléaire, je parle de quand Godzilla il sort de l'eau justement et ça crée un séisme.
Ah oui, non, ça crée un tsunami.
Enfin,
un tsunami
séisme,
à Hawaï voilà. Quand il débarque la première fois.
Donc la première fois que tu le vois.
Référence en fait, subtile.
Oui, en même temps, il y a eu Fukushima dans l'écriture aussi qui s'est
immiscé.
Et là aussi, je pense que le film thématiquement s'est énormément nourri de ça et il a le côté très premier degré que n'avaient pas les autres films de l'Apto, passé le premier. En même temps, c'est sûr que Fukushima a beaucoup joué dans l'écriture du scénario. Et d'ailleurs, Edwards avait dit qu'ils avaient passé pas mal de temps justement à se questionner sur, on se retrouve avec un autre trauma national, où est-ce qu'on le place dans l'histoire ? Et justement, de se dire, on va se nourrir de ça, comme Godzilla se nourrit de ça, et le porter dans le scénario et l'assumer pleinement.
C'était l'évidence de le faire là-dessus à l'époque, alors que l'épisode était encore assez frais et qu'il a vraiment marqué la culture japonaise. Et d'ailleurs, jusqu'au Godzilla japonais, puisque Shin Godzilla lui aussi...
L'évoquera,
c'est l'évidence d'un film qui existait à grâce slash à cause du traumatisme de la nucléaire militaire, qu'aujourd'hui il existe grâce au nucléaire comment on dit, domestique, c'est ça? Je sais plus c'est quoi, comment on appelle les centrales nucléaires.
Oui, voilà. Mais effectivement, en plus, là, je trouve le film très malin de pas juste se contenter de se dire on recite le traumatisme d'Hiroshima et Nagasaki qui sert de métaphore et d'éléments déclencheurs de l'apparition de Godzilla dans l'original, mais là de parler aussi des tests américains dans le Pacifique qui en fait d'ailleurs ne sont pas des tests puisqu'ils sont faits pour tuer Godzilla dans cette version là et qui replace quand même au centre de l'équation la responsabilité américaine dans l'apparition de Godzilla et dans ce qu'il représente symboliquement aussi. Et je trouve le film très beau dans sa manière de vraiment te parler et de le dire très textuellement pour le coup, et c'est à la problématique de mise en scène du film que l'être humain pense avoir le contrôle sur son environnement, et il ne l'a pas, et Godzilla est un symbole avant tout presque de déité qui représente une nature qui doit recréer l'équilibre en permanence, qui est dans une bascule qui est en partie due aux humains, en fait.
C'est malin et c'est respectueux, puisque l'un des éléments perturbateurs, on va dire, enfin, une des choses qui a donné l'idée au producteur Tanaka de vraiment faire le tout premier Godzilla, c'était aussi une histoire qui avait fait les gros titres à l'époque au Japon, de ce bateau de pêche qui avait été atteint par un essai nucléaire américain. Donc c'est vraiment revenir à l'idée originale sans non plus la singer, quoi.
Ouais, c'est ça.
Donc je trouve ça plutôt malin. Pareil, le côté de la responsabilité des Américains, c'est un truc qui a déjà été abordé dans les films de Leigh Risay, notamment dans Versus King Ghidorah, de façon un peu plus cartoon d'ailleurs. Mais ouais, c'est intéressant que en tant qu'Américain, ils se disent, on se remet dans ce truc-là, on se contente pas de juste prendre la bête et la faire rugir, même s'ils le font très bien.
Oui. Alors c'est vrai que le design, on peut en parler aussi, parce que vu que l'idée c'était de s'éloigner de tout ce qu'avait pu faire Emmerich avant, avec son espèce de T-Rex, et que le mot d'ordre c'était vraiment pas trop dinosaure, pas trop T-Rex. Et justement, ça donne cette créature un peu potelée, mais très charismatique, avec sa gueule un peu de... Comment décrire sa gueule ?
Les vrais kaijus ont des courbes, d'abord.
Ah oui, les gros, les cuisses, c'est obligatoire. C'est la caractéristique number one. Oui, il y a un peu d'aigle dans son design, ils l'ont dit. Il y a un peu de varan de Komodo et d'aigle pour sa tronche. Et je trouve que ça se voit quand tu vois.
Alors, varan de Komodo, ouais, maintenant que tu le dis. Alors, l'aigle, j'ai pas.
Bah, tu sais, il a le haut du visage assez... je sais pas comment expliquer, mais c'est difficile à le dire à l'oral. Mais oui, il a un museau et un haut de front qui font un peu aigle, je trouve.
Oui, qui font que d'ailleurs, quand il fronce les sourcils, tu le vois vraiment froncer les sourcils. Oui. Ce qui est abusé dans Godzilla vs. Kong, j'avais oublié à quel point il te le présente vraiment comme le méchant qui sourit presque et qui est vraiment content quand il arrive à faire un truc. C'est terrible. Mais dans le premier, il y a vraiment une majesté qui se tire de ça et que je trouve extrêmement réussi dans le design.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Et je pense qu'il faut parler de une des choses qui le rend selon moi absolument incroyable, c'est ce putain de cri.
Oui.
Absolument fou. Incroyable. Et je trouve qu'ils ont eu vraiment du mal par la suite à réencapsuler la magie, on va dire. Et c'est parce que le processus a été assez dingue. Alors les gens qui ont fait le cri, c'est donc les sound designers Eric Adal et Ethan van der Rijn, et ils ont quand même expérimenté pendant 6 mois sur une période de 3 ans pour essayer de trouver le fameux cri. Alors en plus, l'histoire derrière le cri original est assez connue parce qu'ils ont tenté de le faire avec des animaux, mais ça n'a pas marché. Et finalement, ils se sont rabattus sur, je crois que c'est un gant, sur une contrebasse, un truc comme ça, dans le tout premier. Ce qui donne le côté hyper saturé du son, même si le cri était plus puissant que la piste de son qu'il enregistrait, tu sais. Chose qu'ils ont réussi d'ailleurs plus ou moins à garder, je trouve, dans celui-ci.
Ouais, effectivement. Et quand tu vois au cinéma, ça te pète les tympans, c'est génial.
Et donc, ils ont vraiment tenté des trucs hyper originaux. Ils ont notamment récupéré des micros à usage scientifique qui captent des sons inaudibles pour les humains. Et ensuite, ils ont baissé l'édition à capacité d'audition humaine pour voir ce que ça donnait. Mais ça leur a même pas complètement suffi. Et c'est à partir de là qu'ils ont eu l'idée du fameux cri en 2 temps. Donc avec le gros cri vraiment qui, pour le coup, ressemble un peu à celui de Lato. Et ensuite, il y a ce genre d'écho, résonance qui, métaphoriquement, est absolument génial, puisqu'on a le côté brut. Et juste derrière, t'as... le poids symbolique, quoi, qui arrive.
Ouais, c'est ça.
Et putain, mais je me rappelle encore de ma séance quand il crie à la fin, là. Les frissons, mon gars.
Ah ouais. Même la première fois, parce que oui. En fait, il te fait deux fois un build-up vraiment. En plus, vraiment, t'as l'impression d'être dans un set de DJ à ce niveau-là. C'est ouais. Vraiment à quel moment le drop va tomber. Et la première fois, il te le fait dans cette fameuse scène absolument géniale à Hawaï de l'aéroport, qui te révèle Godzilla. Ah oui. Avec donc le muto qui fait péter les avions, enfin qui par une réaction en chaîne fait péter les avions au fur et à mesure. Et toi, t'es à l'intérieur de l'aéroport, tu as la vitre qui encapsule tout et tu suis dans le travelling latéral, les gens qui paniquent, et puis le pied de Godzilla rentre dans le champ.
Grosse
patine. Et là, raccord, bam, tu remontes, vraiment tu le révèles comme tu révélerais un super-héros en partant de son pied pour remonter jusqu'à sa tête. Et là, tu sais que ça arrive, quoi. Et là, il se met à crier, et là, tu fais « Ok, d'accord !»
Cette séquence, elle est vraiment géniale. La scène de l'aéroport, le moment où il révèle vraiment la bête, vraiment le fait que le travelling soit si lent pour te donner vraiment la mesure de à quel point c'est long d'aller du bas en haut.
Tu peux pas le filmer en une seule fois, il faut vraiment
T'es obligé de faire un mouvement de caméra parce que tu l'auras pas en une seule prise, qui est l'exact opposé de ce que vont faire les autres d'ailleurs par la suite, à dessein. Et je trouve ça assez amusant, et je le disais vite fait dans ma vidéo, et je trouve que c'est ce qui est le plus ironique dans l'histoire, c'est que finalement le film de Emmerich, si on continue la comparaison, il voulait vraiment en faire un sous Jurassic Park, c'est quasiment assumé. Devlin l'a dit d'ailleurs, il me semble. Donc le film, il ressemble à un dinosaure. À la fin, ses bébés, c'est des vélociraptors. Enfin, c'est l'évidence. Et pourtant, le plus Spielbergien des deux films, c'est de toute évidence celui de Edwards, qui utilise les métonymies pour le révéler de petit bout par petit bout, qui utilise le mouvement de caméra pour révéler à quel point il est grand, qui place toujours un référent humain dans le cadre, point d'ailleurs de dédier uniquement un personnage à ça. Donc c'est vraiment hyper Spielbergien. D'ailleurs, lui-même l'assume, il dit qu'il voulait faire un mix entre Dans de la mer et plein d'autres trucs très
oui,
Spielberg.
Oui, en plus, il est effectivement très fan de Spielberg et ça se sent. Et c'est vrai que moi, c'est vraiment le truc que je retiens du film pour m'être refait pas mal des films du Monsterverse pour préparer cette réu, c'est que c'est le seul qui a pour moi l'élégance que je retrouve aussi dans Pacific Rim, où effectivement, l'apparition des mutos, par exemple, la première fois, est extrêmement bien gérée pour que t'aies effectivement toujours... Alors, les grues qui retiennent... l'espèce de structure qui retient le muto, qui évidemment s'écroule au fur et à mesure, et ça pareil, il te le montre en comme des dominos qui s'écroulent au fur et à mesure, et t'as la petite plateforme avec toujours un humain. Quand le muto sort, t'as toujours un humain. Et moi, j'ai même le souvenir, tu vois, que c'était la période où tout le monde faisait des films en 3D post-convertis, souvent un peu naze, et Godzilla, moi, c'était un des rares exemples où je m'étais dit, putain, la 3D sert vraiment à quelque chose dans ce cas-là, parce que il travaille tellement bien la profondeur, ce que ne feront jamais aucune des suites. Parce que t'as toujours souvent un petit élément au premier plan ou en amorce, un bout d'immeuble ou un truc comme ça qui fait que tu comprends la taille des monstres par rapport à leur environnement, et c'est essentiel dans un film comme ça. Mais beaucoup de films de kaiju n'arriveront jamais à retrouver cette majesté-là dans les suites.
Au point d'ailleurs carrément d'adopter un point de vue subjectif à un moment du film, dans la fameuse scène, le pic de la saga déjà, ça y est, on y est, ça ne sera plus que descente à partir d'ici, qui est la fameuse scène du Halo Jump, dont, excuse-moi, mais tout Hollywood va s'inspirer, et le truc va être pillé partout, même Mission Impossible, ils vont le refaire, quoi.
Exactement.
Avec, le truc où il saute, et au-delà, de la musique, qui à ce moment-là vraiment sublime.
Oui, la musique lyrique,
le côté hyper, c'est quasiment du cinéma d'horreur à ce niveau-là, hein, le plan large, qui te
zoom, avec les nuages.
Et il alterne ça avec un pur point de vue subjectif où, t'es tellement près de Godzilla que tu vois même plus vraiment sa forme, en fait. Tu vois juste des bouts de rochers comme ça. Et le fait d'alterner entre les deux, c'est assez génial en termes de mise en scène. C'est vraiment ça et Pacific Rim, c'est vraiment, je trouve, deux leçons de comment tu filmes un monstre géant à Hollywood. Et ils l'ont fait, quoi.
Puis il y a un autre plan, moi, juste après, que je trouve absolument merveilleux. Celui où, en plus, on t'a montré justement, pareil, par le premier plan, donc ce quartier asiatique avec ces petites boules rouges qui traînent, c'est de lanternes au-dessus. Et on t'a déjà montré les mutos à cet endroit-là, et en fait tu revois plus tard donc le personnage de Aaron Taylor Johnson qui vagabonde dans la rue, et il y a Godzilla qui débarque dans cette espèce d'énorme tas de fumée, et qui juste par un immense coup de queue pousse les lanternes et s'incruste petit à petit dans le plan et révèle sa silhouette. Et t'as ces petits moments-là où, alors, qui a amené une des critiques récurrentes du film que je trouve assez malhonnête dans ce cas précis, qui est que en fait tu vois pas Godzilla dans Godzilla, et que soi-disant le film est un peu radin parce qu'il cherche tellement à être dans le teasing.
Pourrais dire ça de l'original aussi, du coup.
Je pense
qu'ils ont à peu près le même temps d'apparition à l'écran.
Déjà, et puis parce que surtout, quand il lâche la bride sur la fin, il le fait vraiment, il le fait de manière assez cool. Et surtout, il le fait toujours... Enfin, c'est cohérent dans un film qui choisit d'avoir constamment le point de vue humain en tête, et justement de montrer des personnages humains qui peuvent même pas concevoir la grandeur de Godzilla, parce que le truc est tellement gigantesque que tu peux pas te raccrocher à ça, en fait.
Et d'ailleurs, Edwards... dit qu'il l'a implémenté dans le processus de développement du design, puisque la première chose qu'ils ont fait quand ils ont réfléchi vraiment à comment on fait notre Godzilla, c'est de dessiner sa silhouette plutôt que de vraiment mettre des formes, puisque selon eux, c'était vraiment ouais, une silhouette hyper iconique et un truc qui se découpe. Et d'ailleurs, il est souvent filmé en contre-jour, quoi. Il est tout noir, tu vois.
Oui, c'est vrai. Oui, toujours avec des éléments de fumée, va vers la fin, c'est absolument merveilleux pour le coup, comment c'est géré. Et justement, dans cette problématique de remettre les humains au centre de l'équation, je pense que ça va être toujours la limite du Monsterverse, mais qui pour moi est un peu transcendée dans le premier Godzilla, qui est de choisir d'avoir des personnages humains qui sont des spectateurs, en fait. C'est d'ailleurs tout le truc, les militaires, les personnages militaires.
Ils ne sont que ça, même, j'ai envie de
dire. Veulent agir et disent, faut qu'on bute Godzilla. Et t'as évidemment Ken Watanabe qui sort sa fameuse catchline, let them fight, en disant, nous, on est rien, on doit les laisser faire, en fait, on ne peut rien faire face à eux. Mais qui a amené l'une des critiques du film, qui était là aussi, que finalement, le personnage d'Aaron Taylor Johnson est assez inutile, puisqu'il juste, il gambade spectateur des événements en cours de route.
Comme par hasard, il est sur le chemin, tu sais.
Alors, c'est vrai que j'aime beaucoup le film, et je trouve vraiment juste le passage à Hawaï en particulier où tu te dis, bon, il a déjà vu le Muto une première fois, et puis on lui dit, on vous envoie à Hawaï, vous allez pouvoir reprendre un vol commercial. Il se retrouve dans le métro qui se fait attaquer par le Muto à ce moment-là.
Le gamin qui rentre dans le métro pile à ce moment-là, comme par hasard. Le mec, vraiment, c'est die hard, il est toujours au mauvais moment, au mauvais endroit.
Donc, bon, il y a ça, et ce qui surtout a été pas mal critiqué à l'époque, c'était la place du personnage de Bryan Cranston qui joue le père d'Aaron Taylor Johnson, et voilà.
J'avoue que la toute première fois que j'ai vu le film, donc on était quoi, en 2014, hein, j'étais jeune. Mais moi, on m'avait vendu le film avec genre Hal de Malcolm dedans. Et j'avoue, c'était une des raisons qui avait fait que, oh, vas-y, j'ai envie d'aller le voir le film. Donc forcément, quand il meurt, en coup de quoi, 45 minutes,
ouais, de
ouais, finir. Ouais, voilà, 40 minutes, de façon absolument pas héroïque, et même l'écriture du personnage qui est anti-héroïque au possible. J'avoue que j'avais été assez déçue. Aujourd'hui, je reconnais que c'était, bon, on va pas dire du génie, on va pas aller jusque-là, mais c'était vraiment malin de présenter les choses comme ça, parce qu'effectivement, tous les humains du film, on est dans le minuscule, l'incapacité, ils peuvent juste suivre ces énormes monstres et ne pas faire grand-chose à côté. Et pour le coup, le traitement inutile du personnage d'Aaron Taylor Johnson, je trouve ça très intéressant, parce que bon, bah même, on revient à l'impuissance qu'il a pu ressortir avec la mort de sa mère et tout ça. Là où je pense que c'est plus négligeable, c'est par exemple Elisabeth Olsen.
Ouais. Ouais,
elle, pour le coup, c'est le personnage inutile, pas le personnage qui est censé révéler l'inutilité et l'impuissance de l'homme à ce moment-là. Elle est juste inutile.
Bah c'est la femme à sauver, quoi. C'est ça qui est
ouais,
un peu...
voilà, c'est vraiment bah, comme le fils. C'est les personnages fonctions pour en gros bien établir Aaron Taylor Johnson. Voilà, c'est un père de famille militaire. Voilà. Ouais. Il a la femme, l'enfant.
Qu'est-ce qu'il est droit dans ses bottes.
Voilà.
Et son père lui dit juste avant de mourir, protège ta famille, c'est ça le plus important, coûte que coûte. Et il faut que ça crée un enjeu émotionnel qui effectivement est un peu faiblard quand même dans le film.
C'est artificiel en effet, ouais.
C'est ça. Mais que limite c'est vrai que je pardonne parce que je trouve ça. En fait, je trouvais surtout courageux qu'à cette époque-là, tu vois, en 2014, avant que Hollywood ne se jette dans un truc dans lequel le Monsterverse va se jeter d'ailleurs, qui est la question un peu de la nécessité écologique, quitte à aller du côté de l'écoterrorisme et ce genre de choses-là, de parler vraiment via des films très numériques, où en fait le numérique prend toute la place post-Avatar quand même, tu vois, de quelle est la place de la créature pas humaine. Et tu vois, la même année sort le deuxième volet de La Planète des Singes qui inscrit vraiment l'idée que c'est les singes les personnages principaux et pas les humains, et que les humains sont même les antagonistes. Ça sort le même été que Godzilla. Je trouve ça quand même assez intéressant de, tu vois, que on est dans cette mouvance d'Hollywood où, bah, même si d'ailleurs Godzilla est peu présent, c'est quand même vraiment lui le protagoniste du film, celui qui fait avancer l'action pendant que, effectivement, Taylor Johnson est voué dans quelque chose de très beau de la part de Edwards, à encapsuler des plans, à servir de référent, effectivement, d'échelle, et quitte à être, bah, d'ailleurs, dans un rapport au sublime, dans le sens littéral du terme, hein. Je pense pas mal à Caspar Friedrich dans certains plans du film, qui évoquent vraiment les peintures sublimes de Caspar Friedrich. T'as notamment ce plan génial, là, quand ils sont dans la scène du train, où ils voient la rivière, où le Muto a déjà attaqué plus loin, et ils voient les tanks et tout dévaler dans la rivière, et eux peuvent juste rien faire, tu vois. Et le plan est absolument somptueux à ce moment-là. Et je trouve qu'il y a une grande réussite à aller dans cette direction-là avec ce film-là, qui est assez courageux.
Tu sais, sur les fascicules de dinosaures que t'avais quand t'étais gosse, à chaque fois, pour te montrer la taille du dinosaure, ils te mettaient un petit bonhomme en silhouette sur
un bus et un petit bonhomme
en
général.
Par exemple, Aaron Taylor Johnson, pardon, c'est ce personnage-là, quoi. C'est une silhouette, on s'en fout, mais... Waouh, t'as vu comment il est grand le truc à côté. Mais je trouve ça assez. En fait, je pense qu'il y a eu des critiques par rapport à ça. C'est une façon de voir le divertissement en fait. Hein. Est-ce que t'acceptes que tes personnages principaux soient des monstres de plusieurs kilotonnes? bon bah il y a des gens qui acceptent
soit
pas
des vraiment des catastrophes naturelles d'une
oui,
certaine façon.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est ça aussi que ça
signifie. C'est ça, bah c'est la personnification de catastrophes naturelles. Et c'est vrai que c'est quand même assez ça reste aujourd'hui, je trouve, malgré le côté familial qui pour le coup est vraiment un truc très américain typique archétypal ouais. même, mais outre ça, c'est quand même assez rare de voir un film où les personnages sont aussi peu proactifs. Enfin vraiment, c'est déconcertant et je pense qu'il y a une partie du public qui a été aussi déconcertée par ça. Alors peut-être à raison hein dans certains cas. Et ça va de pair avec, comme tu disais, l'idée de faire tuer Bryan Cranston, qui, moi, je trouve ça assez excellent, parce que ça donne du crédit à Godzilla, dans le sens où personne n'est à l'abri. Même la tête d'affiche, même le chercheur qui a toutes les réponses, a priori, personne n'est à l'abri.
Et d'ailleurs, la seule action dont t'es capable, on te dit que le protagoniste en cours de route, que sa spécialité, c'est quand même le désamorçage de bombes, et la fameuse bombe nucléaire qu'ils utilisent pour attirer le muto, et qui en fait, ils doivent désamorcer une fois que le muto est attiré, et qui en fait est coincé. Donc même ça, la seule action qu'on lui donne, le seul acte héroïque qu'il est censé avoir, il peut pas le faire parce que la bombe est coincée, et on vient le sauver à la fin, et la bombe explose dans tous les cas, et Godzilla s'en sort, mais... Mais même ça, en fait, il y a une impuissance et d'ailleurs un rapport à la force destructrice de l'humanité qui est quand même assez intéressante.
C'est pour ça qu'une des scènes que je trouve vraiment pas finote dans le film, c'est quand Aaron Taylor-Johnson est inutile, mais on va quand même le faire sauver un gamin qui est séparé de ses parents et qui va récupérer de façon un peu héroïque. Ça, j'avais trouvé que c'était vraiment genre la scène très forcée, très mécanique dans son agencement et vraiment juste histoire de donner... un petit côté héroïque et valeureux à ce gars qui est totalement inutile et impuissant et voilà.
Ouais, visuellement ça claque alors on l'oublie à ce moment-là.
Voilà,
on...
c'est ça.
Là, c'est pour mais ça t'enlèves le gamin et la scène sur le train, elle est très bien.
Mais je trouve vraiment que c'est un truc, tu vois, c'est pour cette époque-là en particulier et c'est un truc qui va d'ailleurs définir Edwards, qu'on aime ou pas ses films suivants, en particulier Rogue One et The Creator, mais c'est un cinéaste très élégant et je trouve vraiment que ce qui est d'ailleurs un truc que le Monsterverse n'arrivera jamais à retrouver, c'est cette élégance-là. Mmh. Et justement, du coup, allons sur le deuxième film, donc celui qui a vraiment entériné l'idée que peut-être ils vont tenter un crossover, c'est Kong Skull Island, sorti du coup en 2017, et réalisé là aussi par un réalisateur dont c'était seulement le deuxième long métrage et quel long métrage de studio, Jordan Vogt Roberts. Et alors, exactement comme tu le disais, Déborah, moi je ne l'avais pas revu depuis la sortie où effectivement le film, je m'étais dit, quelle sombre daube parce que c'est clairement moins bien que Godzilla et c'est clairement moins fin. Et le film a plein de problèmes. Et pourtant, je l'ai carrément revu à la hausse au revisionnage par rapport à la première fois parce qu'en fait, je trouve que de tous les films du Monsterverse, c'est le seul qui arrive vraiment à être fun, déjà du début à la fin, à garder le postulat de la générosité que veut avoir la franchise, tout en étant un peu mieux mise en scène. Alors, pas mieux écrit, hein, ça clairement pas, mais on va y revenir, mais clairement mieux mise en scène et beaucoup plus ludique dans sa fabrication que la plupart des autres films de la franchise.
Ah là, de toute façon, tu captes, il y a toute la scène d'exposition où t'as l'autre qui dit qu'il existe l'île du crâne et tout. Mais bon, au final, le King Kong, il apparaît au bout de quoi, 25 minutes, grand
ouais,
max.
Et puis t'as eu l'intro en plus.
Oui, en plus t'as eu l'intro et tout. Donc là, tu sais directement que tu vas pas être dans le même délire que Godzilla, où vraiment on te tease l'attente, ou comme tu dis, c'est beaucoup plus subtil. Là, c'est beaucoup plus épais et on pousse tous les potards à fond. Et c'est vrai que la première fois, j'avais pas forcément apprécié ça. Et là, en le revoyant, je me disais, franchement, t'enlèves les scènes très longues entre humains. En vrai, le film, il est quand même fanta. Déjà la toute première apparition de King Kong, justement, pour la grandeur et très subtilement essayer de nous dire oui, vos conflits humains, on s'en fout un petit peu, genre vous êtes tellement rien comparé à l'histoire de la planète et tout ça. Mais sinon, c'est super fun en fait de le voir dégommer
des hélicoptères.
Genre juste, même si on en parlait juste avant d'aller en réu, mais... pour bien te montrer que les Américains, ils sont très 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 méchants. Déjà, ils larguent des bombes. Et en plus, t'as ce moment où il y a une bombe qui est larguée au ralenti avec le militaire qui sourit et le reflet de l'explosion dans ses lunettes. Aviator. Voilà, le trait est un peu plus épais.
Ouais, mais tu vois, avec une... Alors, parce qu'en fait, moi, c'est le truc où j'étais toujours à me poser la question à quel point ils prenaient très au sérieux le setting Vietnam, des années 70, et la référence très appuyée à Apocalypse Now et à surtout...
C'était ça
Au cœur des ténèbres, puisque le personnage de Tommy Dolston s'appelle Conrad, et je m'en souvenais plus de ça, et je m'étais dit, mais putain, les gars, vraiment, quoi. Mais en même temps, il y a de la part de Vogt Roberts une vraie ironie et qui à la fois donc a ses limites dans le traitement des personnages humains mais qui parfois peut vraiment se révéler très fun. Et il y a notamment, ça je l'avais complètement oublié, Mais ce raccord absolument génial dans la scène des hélicoptères, où Kong chope un hélico et tu es à l'intérieur de l'hélicoptère, il y a un humain qui tombe dans sa gueule et au moment où il s'apprête à le croquer, tu as un raccord d'un mec plus loin qui est en train de manger un sandwich et qui croque dans son sandwich au moment de la mort du gars. Et je me suis dit, ça, c'est le genre de petit truc quand même dans le rapport à la mort très... Enfin, très bête et très justement le côté chair à canon des militaires américains que je trouve plutôt malinement géré par le film.
Bah ça, j'avoue que quand tu les vois débarquer à plein, tu te dis bon bah c'est super, c'est comme quand il y a un grand groupe dans un film d'horreur avec un slasher, tu sais que bah cool, va y avoir plein de morts et effectivement ils ont pas besoin d'être caractérisés ni rien, ils ont juste besoin d'avoir une mort qui pète un petit peu. Et c'est là après que le film passait cette première séquence où effectivement t'as des militaires qui sont tués en rafale et tout. Moi rien que ce premier plan avec Kong, bah tu vois pas Kong qui jette le tronc, tu vois juste le tronc qui t'arrive
ah non,
dessus.
Le tronc d'arbre effectivement. Avec d'ailleurs en plus l'appareil, le côté très électro presque dans la gestion du son où t'as la panique du son et puis ils se prend le tronc d'arbre et le son s'arrête et le truc passe au ralenti, t'as vraiment l'impression d'un drop d'électro où ça fait boum comme
voilà,
ça.
Voilà, tu vois Kong qui se lève comme ça et tout le monde en mode oh my god.
Ils avaient déjà anticipé John King Excel à la deuxième
saison. C'est ça, ouais.
Puis même il y a plein, je parle pas forcément de certains inserts que je trouve un peu forcés sur l'humour comme quand t'as un des hélicos qui tombe et t'as tu sais des petites figurines à l'avant avec la tête qui gigole comme ça, genre bon ça je trouve ça forcé, mais genre par exemple Kong qui veut péter un hélico et qui se coupe sur les pales et qui fait bah, qu'est-ce que c'est que ça coupe. Ça c'est des petits trucs comme ça que je trouve très drôles et très bien menés. Et après bah il décide d'un petit peu trop se focus sur les survivants et c'est à partir de là qu'on touche vraiment aux limites.
Bah en fait je pense que ce qui est assez révélateur de Skull Island c'est que il encapsule tout ce que va être le problème et le dilemme du Monsterverse en général, c'est que en fait, la retenue d'Edwards va devenir une limite. Et donc, à partir du moment où tu veux faire des crossovers de monstres qui se foutent sur la tronche, t'es obligé d'y aller un peu vénère quand même. Parce que là, Skull Island assume avec beaucoup de fun. Mais d'un autre côté, il y a la grosse limite où dès que t'as des personnages humains qui sont censés être inutiles, comme c'est le cas dans celui d'Edwards, si t'en mets trop et que tu veux quand même essayer de leur donner une fonction, bah, ils sont réduits à ça, en fait, à une fonction. Et dans Skull Island, c'est l'évidence où t'as deux groupes de survivants qui essaient de se retrouver. T'as un peu le groupe des gentils, le groupe des méchants, avec d'un côté Tommy Hiddleston et Brie Larson, et de l'autre Samuel Jackson en méchant militaire et ses copains survivants. Et tout ce beau monde essaie péniblement d'avoir une fonction, alors qu'ils servent juste bah, voilà, de chair à canon au récit, et c'est profondément laborieux.
Bah, Samuel L. Jackson, je trouve qu'au début, c'est un petit peu drôle. Vraiment, le militaire qui regarde Kong droit dans les yeux pendant que tout le monde est en train de courir en panique, il y a les explosions autour de lui, lui, il reste face à la créature en mode « Ok, je vais te tuer, j'en fais le serment et tout ça. » Il y a
quelque chose. Au ralenti, c'est génial.
Il y a vraiment quelque chose en plus avec le regard de Samuel L. Jackson qui fronce les sourcils versus Kong qui fronce les sourcils. Enfin, très rigolo, je crois. D'ailleurs, il y a même un moment... Un raccord sur leurs deux...
Oui, sur leurs deux, vraiment très gros plans sur leurs yeux,
voilà,
c'est génial.
Genre, je l'ai pas trop regardé, mais genre ça m'avait fait rire. Mais bon, après, très vite, ça s'essouffle. Et même du coup, sa mort, qui est un gag, je la trouve même pas forcément drôle, du coup, après tout ce temps. Je sais pas si vous vous souvenez.
Oui, il se fait juste écraser par Kong au moment où il s'apprête.
Die, motherfucker. Il a...
Poum.
Voilà, j'en rigole, mais sur le coup, je m'étais dit, ouais, bon, ça, c'est vraiment, comme tu dis, en fait, les limites du film. Oh, il faudrait en fait assumer que tous ces personnages sont parfaitement inutiles et que soit ils arrivent à survivre, soit ils sont dégommés parce que c'est de la chair à canon. Mais moi, c'est principalement le personnage de Brie Larson que je trouve mais d'un ridicule.
Ah ouais.
Parce que bah, c'est clairement genre te ramener la meuf blonde des deux précédents Kong parce qu'il en faut un, sauf que bah, là, en fait, tu ne sers à plus rien. Enfin, t'es photographe, la relation qu'elle noue avec Kong est le truc le plus artificiel parce qu'en fait, il n'y a pas de relation. Il y a juste, je crois, un moment... où elle met sa main là comme ça sa truffe.
Et du coup, elle se fait sauver par Kong à la fin,
voilà,
parce que juste elle est con d'ailleurs.
On n'est pas
dans s'est mise dans un endroit où il fallait clairement pas se mettre.
Voilà, on n'est pas dans le King Kong de Peter Jackson où tu comprends vraiment toute cette relation qui s'étoffe petit à petit.
D'ailleurs, elle pourrait avoir elle un dilemme proche du personnage de Jack Black dans le King Kong de Jackson, où comme elle est photographe justement, elle pourrait être en mode il faut absolument qu'on renseigne ce qui se passe à Skull Island, tu vois. Mais en fait, non.
Les empilements de dinosaures.
Ouais, voilà. Mais en fait, tout le monde est un peu dans le côté non mais ça va, il faut protéger cette terre et il y a pas tellement d'enjeux. Mais moi, j'ai été choqué de à quel point je me souvenais vaguement du fun du climax que je trouve pour le coup très très fun avec. Le bateau et l'hélice du bateau qui sert à Kong pour buter le monstre à la fin, ça c'est quand même très très rigolo.
Et puis lui arrache
et
la langue.
Et puis arrache la langue et tout,
organes.
C'est vénère quoi. Mais une fois que c'est fini, les humains repartent et c'est la fin. Et c'est vraiment. Et après, t'as juste la scène post-générique pour te dire il y aura d'autres kaijus dans la suite, mais tu te dis, c'est vraiment là-dessus que le personnage de Tom Hiddleston, où vous m'avez teasé au départ que il a pas quitté le Vietnam parce qu'il a pas trouvé une raison d'être à la guerre et que il aurait besoin de trouver un sens à ce qu'il a vécu, on s'en bat la race, quoi.
De toute façon, tous les arcs, ils ne mènent nulle part. Enfin, il y a quasiment pas d'arc.
T'as que celui de John C. Reilly qui est conclu pendant le générique de fin, quoi. Quand il rentre enfin au pays. Après, d'ailleurs, moi, je trouve l'une des scènes, très inspirée du film, qui est de rendre hommage dans l'intro à Duel dans le Pacifique avec cette idée de... Mais qui est... tu vois, pour le coup, moi, je me souviens quand j'avais vu le film, je fais, c'est rigolo. C'est bien de faire ça. Parce que là aussi, ça renvoie quand même à ce qu'est Godzilla et à l'héritage, trauma guerrier qu'il y a dans Godzilla et donc là dans la franchise en général. Et je trouve d'ailleurs que mine de rien la qualité de Skull Island, c'est que c'est le plus américain de tous les films de la franchise.
Oh, pas ça.
Avec son settings et le fait que c'est un film Kong et pas il y a pas du tout de Godzilla dedans. Et mine de rien, je trouve que dans l'énergie qu'a eu Joe Ega, c'est quand même celui qui est le plus fun là aussi après celui d'Edwards, et le plus déférent envers ce truc là par rapport à tous les films qu'il y aura après. Je trouve que c'est quand même sa réussite. Donc encore une fois, c'est contrasté par le fait qu'il y a d'un côté la réussite stylistique que je trouve assez fun, et il y a vraiment des passages, genre le passage avec l'araignée coincée dans les trucs de bambou qui est vraiment rigolote.
Le gars qui s'est empalé là et tout.
Mais c'est sûr que t'as déjà tout le problème de donner d'ailleurs à des acteurs hollywoodiens très, très importants comme Brie Larson, Tom Hiddleston, Samuel Jackson, des rôles importants dans un truc comme ça pour qu'il n'ait juste rien à jouer. Et en plus, comme c'est full CG en face, tu te doutes bien qu'ils ont fait les trois quarts du film sur fond vert à faire « Oh là là, il se passe des trucs !»
C'est vrai que Tom Hiddleston, ça fait pitié. Bah oui, forcément, il est là, ils essaient de lui donner une utilité. Du coup, c'est le gars super héroïque. Et vraiment, le moment où il prend le sabre de l'autre.
Oh, ouais. Oh my god.
Alors ok, franchement, ça fait des plans qui sont un petit peu stylés. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est ridicule. Puis après, Brie Larson qui lance le briquet comme ça au ralenti. Oh ouais. Et du coup, ça fait tout exploser et tout, genre.
Oui, moi, je trouve que ce film-là, il prouve aussi, c'est ironique de dire ça, mais l'une des formes d'intelligence qu'a eu la franchise par la suite, c'est-à-dire d'être bête, finalement. C'est-à-dire qu'il y a eu le film d'Edwards, et je pense qu'ils étaient bien conscients que ça allait être vraiment difficile de rester sur ce créneau. Et moi, je trouve le film rigolo, sans que, voilà. Mais j'avoue que là, vous en parlez, j'ai envie de le revoir, en fait, parce que c'est vrai que c'est marrant, quoi.
Ouais, tu vois, mais c'est vraiment ce que je me suis dit en le revoyant. Alors, il y a vraiment des moments où j'étais là, en plus, je l'ai rematé sur Netflix, je me faisais à manger en même temps. Enfin, tu vois, il y a des moments où je me disais, c'est bon, je peux regarder d'un œil parce que je sais qu'ils vont rien de me dire de très intéressant, si ce n'est que, oh, il y a la Terre creuse qui existe, oh, il y a le peuple qui est coincé sur Skull Island, machin. Tu dis, oui, en fait, je m'en fous, passe à la suite, passe à ce qui m'intéresse vraiment. Et il y a vraiment des cas où c'est absurde, le personnage de Toby Kebbell qui existe juste pour se faire buter en cours de route parce qu'il faut justifier qu'on arrive à son hélicoptère pour récupérer les armes. Et que vraiment le mec survit pendant plusieurs séquences tout seul pour au final juste crever plus tard dans le film, et tu fais mais à quoi il sert du coup, si ce n'est de justifier une péripétie supplémentaire parce que il faut aller le sauver et il faut aller chercher les armes qu'il y a dans son hélico, mais tu te dis mais juste le mettez pas en fait, enfin, ou croiser différents personnages en un seul, ça suffira amplement en fait.
Ouais, à chaque fois je me suis fait la réflexion de pourquoi ils sont autant, pourquoi il y a deux scientifiques qui déjà les deux scientifiques ne servent à rien, et pourquoi ils sont deux à servir à rien au lieu à l'arrière d'un seul qui sert à rien, c'est un peu mieux, puis tu le tues de façon rigolote et puis voilà, c'était cool.
Mais ce qui me plaît vraiment dedans du coup, c'est le côté parodie, le fait que quand ils ont annoncé, la couleur orange, donc avec les posters qui pompaient complètement ceux de Apocalypse Now, etc., je me suis dit quelle drôle d'idée. Et avec les raccords dont tu parles et ce rapport à la mort qui est diamétralement opposé à celui d'Edwards, qui est un blockbuster qui essaie de réfléchir un peu à la place que tu mets à la mort dans les films à gros budget où c'est plus en hors champ mais dans le champ, etc. Là, je trouve ça assez amusant d'en avoir fait un ressort comique et surtout de ne pas trop l'assumer dans un Hollywood qui est en train de se prendre Deadpool dans la tronche base de fausses montées en suspense et de parodies pas très finotes des codes du film de super-héros ou même du blockbuster en général. Alors je pense à ce qui est, selon moi, pour l'avoir revu récemment, la meilleure scène du film, qui est la mort, je sais plus comment il s'appelle le personnage.
Ouais, enfin de ce soldat qui choisit de se sacrifier contre le gros monstre à la fin et qui en fait se fait juste buter par un coup de queue alors qu'il sort les grenades et tout
et
ça.
Et en fait, la scène est vraiment hilarante puisque contrairement à dans un Deadpool ou toute autre parodie vraiment bas du front qui s'assume en tant que telle, t'y crois, c'est-à-dire qu'il y a la musique épique, il y a le côté hyper premier degré, il se prend ce coup de queue, il meurt comme une grosse merde, et la musique ne s'arrête pas, il n'y a pas le bruit de vinyle qui se crache, et c'était une blague. C'est-à-dire qu'il y a cet équilibre entre la parodie pure et le premier degré bourrin, qui rend la chose assez aimable, et vraiment décomplexée dans le bon sens du terme, alors que, à ce moment-là, commence à se mettre en place une définition de la décomplexion hollywoodienne, qui est vraiment super cynique, très post-moderne. Là, c'est vraiment le film de potes, quoi. Ils l'ont fait entre potes, ils sont amusés à l'écrire, ils se sont peut-être amusés à le tourner, j'en sais rien.
Oui.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment des moments, ils sont fait vrai, ça c'est rigolo quand même. Et moi, j'ai envie de dire aussi, bah, c'est un peu rigolo aussi, quoi. Voilà.
Bon, bah, très bien. Je pense que ça, c'est déjà pas mal pour commencer à faire le tour de ce qu'est le Monsterverse. Alors, je propose qu'on s'arrête là avant d'entrer dans le dur de ce crossover et le plaisir de la patate de forain géante dans la margoulette. Bah, c'est juste dommage qu'on n'en ait pas fait un podcast parce que ça ferait une super cartouche en plus pour écran large et puis les gens verraient à quel point on est des gens sympas qui aiment finalement les plaisirs simples de la vie. Mais on sait que c'est compliqué et en plus il faudrait rappeler aux auditeurs de s'abonner, de mettre 5 étoiles sur leur appli d'écoute et de commenter et en retour il faudrait les en remercier parce que c'est pour eux qu'on le ferait et c'est ça le plus important.
Et oui.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Welcome to another round of Boardroom or Miroboard. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miroboard?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast. So you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.